Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est à une promenade que nous vous convions aujourd'hui. Une promenade dans Paris, de la chute de l'empereur Napoléon et la restauration de la monarchie jusqu'à la révolution de 1848, une époque de bouillonnement littéraire, artistique et politique. Et c'est un panorama riche et foisonnant, varié et fascinant que découvre le visiteur à travers plus de 600 œuvres, sculptures, peintures, costumes, objets d'art et mobilier. On y croise des écrivains, des musiciens, des plasticiens en tout genre, quelques hommes politiques aussi, magnifiés ou caricaturés. L'exposition Paris romantique 1815-1848 se déploie jusqu'au 15 septembre sur deux sites, le Petit Palais et le Musée de la Vie romantique. Avec nous pour en parler le directeur de ces deux lieux prestigieux, respectivement Christophe Leribaud et Gaël Rio, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on a l'impression en visitant cette exposition d'une vitalité incroyable, d'un bouillonnement vraiment dans toutes les sphères de la société. Soyons clairs, Gaël Rio, est-ce que c'est un petit peu trop chauvin de le penser ou est-ce que c'est une réalité? Paris, c'est vraiment la capitale artistique et intellectuelle européenne de l'époque.
Oui, alors nous à travers ce parcours au Petit Palais et au Musée de la Vie romantique, nous avons justement voulu montrer cette vitalité, ce bouillonnement culturel, esthétique, littéraire, où finalement Paris est une vitrine aussi bien pour les arts décoratifs, la peinture, la sculpture, mais aussi une vitrine vis-à-vis de l'étranger, puisque de nombreux artistes étrangers, anglais, allemands, polonais, viennent à Paris et étudient aussi dans les ateliers auprès des artistes français. Donc il y a vraiment une sorte de creuset, hein, de cette fabrication du romantisme en train de se faire à Paris dans cette période de la Restauration et de la Monarchie de Juillet.
Mais pourquoi Paris attire-t-il autant ?
Alors, Paris attire autant puisqu'il y a des artistes qui ont une renommée européenne, internationale. Et puis, il ne faut pas oublier que le romantisme est un courant européen. Donc, avec Paris comme point d'orgue aussi bien d'un point de vue artistique, économique aussi, et puis politique, avec cette vitalité aussi de la monarchie, des commandes royales, et puis une vitalité du commerce aussi qui attire les étrangers.
Alors l'exposition du Petit Palais Christophe Leribaud a été conçue comme une déambulation dans le Paris de ces années-là, hein, à travers les quartiers emblématiques de l'époque. Et à tout seigneur, tout honneur, la première étape, c'est le palais des Tuileries, donc le palais du roi, qui sera détruit par les communards en 1871. Il faut dire que sous la Restauration, c'est vraiment le symbole du pouvoir. Donc après la chute de l'Empire, la monarchie revient sur le trône, avec les Bourbons dans un premier temps, hein, Louis XVIII et Charles X, et ensuite la famille des Orléans avec Louis-Philippe. Et vous évoquez dans la première salle de l'exposition les trois souverains. Il y a des portraits, il y a des statues, il y a du mobilier, il y a de l'argenterie, il y a de la verrerie. On a l'impression, on se dit, enfin, que de luxe et d'opulence, quoi. L'idée, c'est vraiment de briller.
Alors, du luxe et de l'opulence, forcément, dans ces époques, c'est une cour, mais c'est une cour certainement moins fastueuse que celle de Napoléon, qui se voulait être vraiment le patron de toute l'Europe. Et ce sera à nouveau le cas de Napoléon III, sous le Second Empire, qui veut vraiment asseoir le pouvoir impérial face à la reine Victoria et aux autres cours européennes. À dire vrai, sous la Restauration, c'est une monarchie un petit peu plus atone, qui est arrivée avec la défaite de Napoléon, qui s'inscrit dans les mêmes murs, hein, des Tuileries. On a voulu commencer par le palais des Tuileries, car c'est une sorte de lieu de pouvoir un peu oublié, qui pense monarchie française.
On pense Versailles d'abord.
Voilà, Versailles. Or, en fait, pendant tout le 19e siècle, c'est le palais des Tuileries. Mais comme il a été détruit, comme vous l'avez dit, en 1871, et qu'ensuite la Troisième République a fait le choix de ne pas reconstruire les Tuileries pour cette raison, finalement, ça a marché, puisqu'on a on connaît le jardin, moins le palais, qui abrite donc des rois un peu vieillissants, puisque Louis XVIII et Charles X étaient les frères de Louis XVI, donc une cour un peu tristounette, faut bien le reconnaître. Quelques personnalités, comme la duchesse de Berry, qui est plus jeune, qui a plus d'allant. Et puis Louis-Philippe est aussi un roi qui veut être roi des Français, qui veut être un roi normal, si je puis dire, avec une cour qui n'a rien du faste de Napoléon. On n'a pas de grandes commandes de costumes de cour, des uniformes. Napoléon voulait faire marcher les industries du luxe, les soyeux de Lyon. Moyennant quoi, c'est quand même un lieu de pouvoir qu'on a un petit peu oublié, qui ne dictait néanmoins pas le goût à toute la ville, comme le prétendaient les grandes monarchies du XVIIe ou du XVIIIe siècle. C'est un lieu quand même intéressant.
Est-ce qu'il y a un style restauration? Alors justement, quand on voit le mobilier, par exemple, on a quand même l'impression de quelque chose d'assez composite, Christophe Le Ribot.
Alors effectivement, puisque le propre de cette période est ce qu'on appelle l'éclectisme, c'est-à-dire qu'on revient à différents styles du passé. On met en avant notamment le style néo-gothique, le retour au Moyen-Âge, d'abord pour des raisons politiques finalement, parce que le Moyen-Âge c'est la vieille monarchie française, c'est le retour au catholicisme, remis à la mode par Chateaubriand, et puis aussi un retour au style du XVIIe siècle, c'est la France de Louis XIV, mais aussi une sorte de mélange de tous les styles, avec des artisans très évidemment très très chevronnés, mais surtout on échappe au néoclassicisme, au style impérial, à l'antique de Napoléon. Mais ça part dans des directions assez variées, avec de vraies recherches de couleurs. Enfin, c'est une période très, très inventive.
Alors, pas très loin des Tuileries, il y a le Palais Royal. Et là, on peut dire que c'est le cœur de la vie parisienne de l'époque.
Voilà, alors le Palais Royal, contrairement aux Tuileries, existe toujours. Voilà. C'est un très, très joli jardin avec ses galeries commerçantes, avec des colonnes. C'était une terre qui appartenait aux Orléans, donc qui ensuite prendront le pouvoir à partir de 1830. Ils savent très bien faire fructifier les mètres carrés parisiens. Et contrairement à maintenant, où c'est plutôt un lieu assez discret, très, très joli, charmant, mais où il n'y a pas la foule, c'était vraiment le vrai centre de la vie parisienne. Quand un touriste fortuné anglais arrivait, il posait ses valises à l'hôtel Meurice et puis allait ensuite au Palais Royal. Il faut dire qu'il y avait aussi bien des boutiques de luxe que les grands restaurants, les premiers grands restaurants, des maisons de jeux et même de la prostitution. C'était vraiment, c'est une autre géographie parisienne dans ces années 1820-1830.
Et la scénographe de l'exposition a reconstitué une galerie du Palais Royal, galerie commerçante avec des vitrines de commerce de luxe qui exposent des objets de décoration. Alors, il y a des pendules, il y a des coffrets, il y a des vases, il y a de la vaisselle. C'est une période où le travail du cristal, je crois, c'est beaucoup développé.
Oui, le cristal avait été mis au point plutôt en Angleterre au XVIIIe siècle, mais c'est vraiment dans ces années-là que ça devient une vraie industrie. C'est les débuts des cristalleries de Saint-Louis, Baccarat, etc. On fait même des meubles en cristal, énormément de pendules, mais on y vend aussi beaucoup d'articles de mode, de tissus, des foulards, plein de choses. Et on n'a pas voulu que l'exposition soit trop scolaire. Donc c'est une balade dans Paris, et le Palais Royal se présente comme une reconstitution avec des vitrines de boutiques. Et donc tour à tour, on voit des un petit peu comme si on passait d'un magasin à l'autre avec des tentations, mais enfin sauf que tout est quand même sous clé dans des vitrines.
Oui, mais quand même. Mais alors, on imagine effectivement, parce que nous visiteurs, en habit d'été, on déambule comme ça entre les vitrines. À l'époque, c'était réservé à l'aristocratie ou la bourgeoisie avait aussi le droit de citer dans ces galeries du Palais Royal pour acheter ces objets, ces vêtements aussi que l'on peut voir.
Alors il fallait, j'imagine, un peu de sous. Cela dit, on pouvait s'en sortir avec des factures impayées, comme tous nos amis Dandy ou des écrivains comme Balzac savaient en abuser.
Alors un mot de la mode, Christophe Le Ribot, à quoi ressemble un homme et une femme bien habillés à cette époque-là?
Alors la mode évolue bien sûr sur cette trentaine d'années. Parmi les points les plus saillants pour les costumes féminins, ce sont les manches qu'on appelle gigots, enfin assez énormes, un peu disproportionnées, des coiffures aussi assez volumineuses. En revanche, des tissus, souvent des tissus moins précieux que précédemment. L'époque n'est pas absolument florissante économiquement, c'est le début de la révolution industrielle, mais la pleine puissance française sera vraiment récupérée plutôt à partir des années 1840-50 et au-delà. Donc beaucoup de tissus imprimé, plus modeste, mais on a pu reconstituer toute une série de silhouettes masculines et féminines grâce au Palais Galliera, musée du costume, ce qui est déjà un petit peu héroïque, puisque finalement, parce que ces tissus étaient plus simples, on les a moins conservés. Mais voilà, on a pu présenter tout ça de manière, je crois, assez vivante dans cette galerie.
Des gilets masculins très colorés, ça attire tout de suite le regard. Et moi, j'ai été intéressé par un éventail à l'effigie d'une girafe. Zarafa, c'est la girafe du roi Charles X.
Voilà.
C'est une star, ça, à l'époque.
Absolument, qu'on retrouve décliné aussi bien sur des assiettes que sur des pendules, enfin tous les produits dérivés possibles. Cette girafe qui arrive au muséum, au Jardin des Plantes, qui fait sensation pendant quelques années. On n'en avait jamais vu à Paris. Et puis après, la mode se passe. Thank you.
quelques notes du concerto pour piano numéro 1 de Franz Liszt, interprété ici par le pianiste François-René Duchâble, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par James Conlon. Liszt, un des très nombreux musiciens et compositeurs que l'on croise au Petit Palais en visitant cette exposition sur le Paris romantique, à travers des tableaux, des sculptures aussi, ainsi que les bustes d'Auber, Boieldieu, Meyerbeer ou Verdi, voisines avec les portraits du librettiste Alévi, de la Malibran, la chanteuse lyrique de l'époque. On trouve aussi des partitions justement de Liszt, mais aussi de Berlioz. Il y a des écrivains Stendhal et Dumas qui sont représentés. Et tout ça dialogue avec les tableaux de Géricault ou de Delacroix. C'est vraiment un croisement entre la littérature et tous les arts, finalement, la période romantique, Christophe Leribaud.
Ah, c'est vraiment une période où tous les arts se rencontrent. Et ce qui est au départ une pièce de théâtre se transforme très rapidement en opéra, et puis pour cet opéra on demandera à Delacroix de dessiner les costumes, et puis on en refera peut-être après des feuilletons, enfin tout ça c'est des sujets de pendule, et tout ce monde se rencontre dans différents salons.
Et vous avez reconstitué une grande exposition de l'époque, le salon au carré du Louvre, donc là autre lieu évidemment emblématique de Paris. On va dire que c'est l'art contemporain de l'époque qui s'expose là-bas.
Alors c'est la grande exposition qui a lieu tous les deux ans et ensuite tous les ans.
C'est la FIAC de l'époque, on peut dire ça comme ça.
Ah oui, on pouvait y acheter. Mais en tout cas, c'est le grand rendez-vous de la peinture et de la sculpture moderne, toutes tendances confondues. Et on a essayé dans une salle de reconstituer un petit peu l'atmosphère de cette exposition avec des tableaux du sol au plafond, des sculptures au centre et puis tous les
foisonne styles de partout. Là, c'est vraiment impressionnant avec des styles picturaux et des sujets très très différents là aussi.
C'est le propre du romantisme par rapport peut-être à une mise au pas de la peinture à l'époque néoclassique. On représentait des sujets à l'antique ou alors des sujets de bataille sous Napoléon. Et là, au contraire, on est à des échappées vers l'Extrême-Orient, enfin en tout cas vers l'Orient de la Croix, mais des sujets inspirés de Byron et de Walter Scott, donc plutôt l'Angleterre, l'Écosse, des portraits, des scènes historiques anciennes, des choses plus contemporaines, dans des styles assez différents, parce que tous ces artistes essaient de développer leur propre originalité.
La peinture religieuse aussi, il y a quelques tableaux que l'on
retrouve. Alors, on a la chance de montrer un très grand format de la croix, le Christ au Jardin des Oliviers, qui d'ordinaire est à l'église Saint-Paul dans le Marais, mais accroché très en hauteur, là on peut le voir de près. C'est une époque où il faut remeubler, si je puis dire, toutes les églises de Paris et d'ailleurs, qui ont été vidées pendant la Révolution, donc il y a quantité de commandes.
Alors, le romantisme émerge, on l'explique, mais il a aussi les yeux un peu tournés vers le passé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos du pouvoir royal, le Moyen-Âge est quand même aussi extrêmement, extrêmement présent. Comment est-ce qu'on peut expliquer, il y a des raisons politiques, cet engouement pour le Moyen-Âge, ou des raisons esthétiques?
Alors il y a bien sûr les deux. Au départ, des raisons politiques, gommer le passé récent, la Révolution et l'Empire, remonter à des sources de la monarchie. Éventuellement, on peut remonter au XVIIe siècle, mettre en valeur la vie de Henri IV, qui est le plus consensuel des Bourbons. Et puis, de fil en aiguille, sur cette vogue du qu'on appelle le style troubadour, Victor Hugo va écrire donc son grand roman Notre-Dame de Paris, qui place au centre de l'intrigue, finalement, un grand monument qui était un peu délaissé, ce qui va entraîner sa restauration, ce qui va entraîner une prise en compte des premières listes de monuments historiques à préserver, et du coup, des études beaucoup plus scientifiques sur le Moyen-Âge, au début du collectionnisme. On commence à s'intéresser au Moyen-Âge, au-delà du côté un peu pittoresque du papier peint avec des décors gothiques, des vraies enquêtes sur ce patrimoine et cette période.
Oui, c'est vrai que l'exposition a été un peu rattrapée par l'actualité avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vous consacrez toute une salle, d'ailleurs, du Petit Palais à Notre-Dame et vous montrez justement toute l'inspiration que le roman de Victor Hugo a procuré aux différents artistes, notamment aux peintres.
Oui, ça va vraiment entraîner la restauration de la cathédrale qui en avait bien besoin, dont ce projet pris en main par l'architecte Lassus et puis par Viollet-le-Duc, qui va pendant 30 ans rêver à la cathédrale idéale, chantier qui va s'achever par la splendide flèche que malheureusement on a vu s'effondrer, mais qui est peut-être le chef-d'œuvre de l'architecture romantique tardive.
Une grisette mignonne est une aimable personne qui doit faire sans façon le bonheur d'un beau garçon. Si vous êtes fraîche et belle, si Dieu vous a faite telle, n'est-ce pas pour le désir, n'est-ce pas pour le plaisir?
toi, mignonne, mignonnette, ne faisons pas notre tête, les grands mots les embarras, voyez-vous, cela n'est pas la peur d'une grisette. Un baiser pour la grisette, ce n'est rien qu'une amusette. Quand on lui dit qu'on le veut, elle doit en donner deux. Les trésors qu'elle possède, sans compter, elle les cède. Auprès d'un être amoureux, cela veut dire être heureux. Oh, mignonne, mignonnette, ne faisons pas notre tête. Les grands mots les embarras, voyez-vous, cela n'est pas la peur d'une grisette.
André Baugé sur RFI qui chantait la grisette dans VMDN. Alors, c'est qui la grisette, Christophe Leribaud?
Ah, ça peut être une maudite, c'est quelqu'un qui travaille dans tous les métiers possibles du Paris industrieux, mais qui est emmené au bal par les étudiants, par éventuellement des écrivains sans le sou, des rapins, des peintres en quête de succès, et ça contribue à la mythologie parisienne, c'est celle des scènes de la vie de Bohème, d'Henri Murger, qui aboutira à l'opéra plus tardif de Puccini, La Bohème. Ça fait vraiment partie de l'image du Paris de cette époque, dans les soupentes, voilà. Tout un...
Alors c'est assez étonnant, parce que pour moi, le Paris Bohème, c'est plus la rive droite, alors que vous, la grisette, vous l'avez placée dans le quartier latin.
Il fallait quand même qu'il se passe quelque chose rive gauche.
Ah, quand même.
Et autour du quartier latin et jusqu'aux barrières dans le sud, les balles de la Grande Chaumière, les balles autres qui se développent à ce moment-là.
Alors on voit les grisettes dans les lithographies aussi de Gavarni. Il y a aussi les lorettes. Alors c'est qui les lorettes par rapport aux grisettes?
Alors là, effectivement, on est dans la géographie plutôt dans le nord,
voilà, de Notre-Dame de Lorette, hein, voilà, Paris, il y a l'église, voilà. Encore aujourd'hui.
Là, très très jolie église, quartier nouveau, avec des beaux immeubles construits sous Charles X, sous Louis-Philippe, où on pouvait loger des femmes entretenues, d'où leur surnom de Lorette. Alors c'est parmi lesquelles quelques personnalités restaient connues, comme Marie Duplessis, la Dame aux Camélias, le modèle aussi de Violetta dans la Traviata.
Voilà, des femmes qui ont d'ailleurs largement abondé la littérature de l'époque. Hein. Par exemple, je crois qu'on évoque dans l'exposition Eugène Sue et Les Mystères de Paris.
Voilà, grand roman feuilleton.
Qui fait partie, effectivement, donc, dont les épisodes ont été publiés très régulièrement dans la presse de l'époque.
Eugène Sue commence comme dandy héritier d'une certaine fortune, il dépense tout, il doit écrire un feuilleton, le feuilleton marche, il le prolonge de plus en plus, et ses idées tournent de plus en plus à gauche, parce que peu à peu il se plonge dans la réalité aussi difficile de la vie parisienne, hein, au-delà des belles boutiques du Palais Royal.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux, la vie est belle, et vous êtes comme elle, si belle, vous êtes si belle vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Après moi? Et vous venez à ma rencontre?
Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider, et vous étiez déjà loin. Alors?
Alors?
Alors comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser, et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi?
Parce que j'ai rendez-vous.
Oh, rendez-vous? Destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pourquoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre?
Oh, moi, j'aime tout le monde.
Eh bien, voilà qui tombe à merveille. Je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux.
Est-ce que vous en savez?
Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire.
Vraiment?
Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors?
Alors, au revoir, Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt, peut-être, sait-on jamais avec le hasard.
Oh, Paris est grand, vous savez.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Arletty et Pierre Brasseur, évidemment. Pierre Brasseur dans le rôle de l'acteur Frédéric Lemaître, extrait des Enfants du Paradis, le film de Marcel Carné qui se passe, on l'a entendu, sur le fameux boulevard du crime, hein, l'actuel boulevard du Temple, Christophe Leribaud. Là, on est vraiment dans le lieu par excellence des amusements, du théâtre, de la pantomime, des spectacles.
Alors le lieu nocturne, donc le boulevard du crime qui tire son nom de tous les drames sanglants que l'on joue sur scène. Hein,
voilà, c'est pas dans la rue que se passait le crime, c'est vraiment dans les salles.
Peut-être un peu de...
Un petit peu aussi,
un peu dans la rue quand même, oui. Pour animer. Mais c'est surtout sur scène, aussi bien des pièces, des drames tragiques comme ceux d'Alexandre Dumas, et puis aussi des faits divers, quotidiens, qui pouvaient en plus changer de jour en jour, s'adapter à l'actualité. Et c'est le cas du personnage de Robert Macaire, joué par Frédéric Lemaître.
Voilà, c'est vraiment, on est dans le Paris qui bouillonne là, hein, de toute façon. Hein. C'est vraiment un Paris très populaire.
Alors, ces théâtres de boulevard attirent en fait tout le monde, mais c'est très très vivant, ça bouillonne tellement que sous le Second Empire, on va détruire tous ces théâtres. C'est l'emplacement actuel de la place de la République pour en finir avec tous les débordements qui pouvaient avoir lieu sur scène, parfois qui pouvaient être assez critiques vis-à-vis du pouvoir ou des mœurs, encore pire.
C'est Arthur Rubinstein qui interprète ici le Nocturne opus numéro 27 de Chopin, qui nous emmène dans le 9e arrondissement de Paris, au cœur de ce quartier intitulé La Nouvelle Athènes, où se trouve le musée de la vie romantique que vous dirigez, Gaël Riault, un des quartiers évoqués d'ailleurs dans l'exposition du Petit Palais. Chopin et Georges Sand y ont habité un certain temps. Hein.
Qui a réuni un grand nombre d'artistes, un grand nombre d'écrivains aussi. Donc c'était le musée de la vie romantique et le lieu dédié, je dirais, pour évoquer la suite du parcours du Petit Palais et le parcours dédié justement au salon littéraire.
Alors on n'est pas très loin du quartier des banquiers, hein, puisque Chaussée d'Antin, c'est ça, c'est vraiment qui a abrité aussi le quartier des collectionneurs aussi, hein, le quartier Chaussée d'Antin. Ce sont deux mondes qui vivaient côte à côte ou qui s'entremêlaient, ce monde des collectionneurs et le monde des artistes?
Alors, qui s'entremêlaient, parce que finalement, les artistes, l'aspect commercial aussi de l'art était présent à l'époque. D'ailleurs, nous l'évoquons un petit peu au travers de ces salons littéraires. Mais il est vrai que l'exposition proposée par le Musée de la Vie Romantique insiste sur cet aspect, d'ailleurs, qu'évoquait Christophe Le Ribaud, cet aspect de fraternité des arts, puisque les salons littéraires sont vraiment le creuset de cette fabrication du romantisme et où les écrivains, les peintres, les musiciens se fréquentent et échangent sur leurs différentes pratiques artistiques.
Alors les salons, c'est pas nouveau, puisqu'il y en a eu évidemment à l'époque des Lumières, donc qui ont conduit à la Révolution française. Le principe est le même ?
Oui, bien sûr, ces salons littéraires de l'époque romantique s'inscrivent dans cette longue tradition du salon des Lumières, mais je dirais qu'il y a une spécificité des salons romantiques avec cette coloration, je dirais, littéraire, davantage littéraire, puisque les salons mondains existent encore, mais certains salons vont se spécialiser, si on peut le dire ainsi, et vont devenir finalement des lieux, on parle de cénacle également, cénacle qui renvoie à ce terme d'origine biblique, hein, la scène, le dernier repas du Christ, où finalement ces cénacles se concentrent sur des petits comités et ces écrivains qui se rencontrent en petits comités autour de différents divertissements et vont parler essentiellement de littérature. Pas seulement, ils viennent aussi pour se divertir, pour parler de l'actualité, mais la littérature, leur pratique artistique est au centre de ces échanges. Et il faut bien se dire que souvent, ces salons sont le premier auditoire pour ces écrivains qui vont tester leurs œuvres littéraires avant même qu'elles soient publiées.
Alors, quelle différence entre les salons et les cénacles, pour être plus précis ?
Les salons sont justement dans cet héritage que l'on évoquait, dans cet héritage du XVIIIe siècle, ont souvent une coloration plutôt mondaine, on ne fait pas qui parlait de littérature d'esthétique. Le Cénacle est vraiment davantage un lieu, je dirais, presque d'innovation aussi, où certains talents sont découverts et où on échange vraiment autour de la littérature et de la pratique artistique.
Alors, par exemple, parmi les Cénacles, il y a celui de Charles Nodier, hein, à l'Arsenal, et puis celui de Victor Hugo aussi. Alors là, on n'est plus du tout dans la Nouvelle Athènes, on est plus du côté de Montparnasse, hein, puisque c'était
exactement. Alors, les salons ont lieu au sein des domiciles, hein, de leurs hôtes. Donc, il n'y a pas de stratégie géographique à proprement parler pour la situation de ces salons et de ces cénacles. Mais en effet, Victor Hugo au fil de ses déménagements, finalement, son salon change de lieu. Donc, il a d'abord lieu rue Notre-Dame-des-Champs et ensuite place Royale dans la maison que l'on connaît actuellement, qui est la maison de Victor Hugo.
Exactement. Alors, dans les salons, on lit donc à voix haute, en particulier de la poésie, par exemple, tiens, complètement au hasard, des extraits du recueil de Victor Hugo, justement, Les Orientales, comme ce poème Clair de lune.
La lune était sereine et jouait sur les flots. La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise, la sultane regarde. Et la mer qui se brise là-bas d'un flot d'argent brode les noirs îlots. De ses doigts en vibrant s'échappe la guitare, elle écoute. Un bruit sourd frappe les sourds échos. Est-ce un lourd vaisseau turc qui vient des eaux de Kos, battant l'archipel grec de Saram Tartare? Sont-ce des cormorans qui plongent tour à tour et coupent l'eau, qui roulent en perles sur leur aile? Est-ce un djinn qui là-haut siffle d'une voix grêle et jette dans la mer les créneaux de la tour? Qui trouble ainsi les flots près du sérail des femmes? Ni le noir cormoran sur la vague bercée, ni les pierres du mur, ni le bruit cadencé du lourd vaisseau rampant sur l'onde avec des rames. Ce sont des sacs pesants, d'où partent des sanglots. On verrait, en sondant la mer qui les promène, se mouvoir dans leurs flancs comme une forme humaine. La lune était sereine et jouait sur les flots.
Michel Bouquet qui lit Clair de lune de Victor Hugo, extrait des Orientales. La période de l'orientalisme, comme on dit, Gaël Riou, elle est indéfectiblement liée au romantisme.
Tout à fait, c'est une source d'inspiration importante pour de nombreux artistes. D'ailleurs, nous exposons au Musée de la Vie Romantique un célèbre tableau qui provient des collections du Petit Palais, un tableau de Delacroix qui représente le combat du Giaour et du Pacha Hassan et qui montre justement toute cette influence. Ce tableau montre un combat entre le Giaour, qui est ce chrétien turc, et le Pacha. Et c'est aussi un tableau qui est inspiré de Lord Byron, des contes orientaux de Lord Byron. Donc, c'est un tableau qui montre justement cette influence entre la peinture et la littérature. Delacroix s'inspire de Lord Byron, qui est ce célèbre poète anglais romantique. Et puis, c'est Delacroix utilise toute sa fougue, toute sa passion, finalement, pour montrer cette mêlée des corps des deux cavaliers et des deux chevaux. Et donc, ce tableau est très illustratif des tableaux aussi que l'on pouvait voir dans ces salons, et aussi de cette fraternité des arts, de cette synthèse des arts, où les peintres s'inspiraient de la littérature, où les écrivains s'inspiraient aussi de leurs amis peintres, et c'est ce que montre aussi cette exposition. Et le salon littéraire, le Cénacle, est un lieu justement où s'échangent ces différentes pratiques esthétiques.
Et vous avez reconstitué un atelier salon d'Ary Scheffer, donc l'un des grands peintres de l'époque, et on voit bien effectivement dans cette pièce, je crois que c'est la première que l'on peut visiter au Musée de la Vie Romantique dans le cadre de cette exposition, on voit bien justement cette imbrication, cette interpénétration presque entre les arts et la littérature.
Oui, alors c'est vrai que ce premier espace de découverte de l'exposition est l'atelier salon d'Ary Scheffer. Donc Ary Scheffer, qui est un peintre d'origine néerlandaise, qui habitait dans la maison qui est devenue maintenant le Musée de la Vie Romantique. Et donc c'était un écrin vraiment incroyable pour justement évoquer le salon littéraire. Tous les vendredis, Ary Scheffer recevait la société littéraire, artistique, politique de son temps. Et donc, tous les éléments de ce salon que l'on peut visiter aussi dans le cadre de nos collections permanentes, hors exposition temporaire, montre justement c'est la place de la musique, puisque nous avons un piano à demeure, nous avons une bibliothèque qui montre la place aussi de la littérature, et puis l'accrochage de tableaux au mur montre justement ce syncrétisme esthétique en quelque sorte.
Alors dans les salons et les cénacles, on lit des vers et de la prose, on discute d'art aussi, donc il y a les tableaux qui sont réellement accrochés au mur. On joue aussi à des jeux littéraires, je crois qu'il y a par exemple un acrostiche que l'on peut découvrir. Ça, c'est assez amusant. C'est Balzac qui en est l'auteur.
Exactement, oui. Il ne faut pas oublier que ces salons sont aussi donc c'est à la fois un moment et un lieu de sociabilité. Donc, ce sont des lieux aussi où qui ne sont pas seulement sérieux, où on parle de littérature. Ce sont des lieux aussi où on aime se divertir, où on aime plaisanter, on joue aux cartes. D'ailleurs, dans les représentations de ces salons, on voit souvent des gens attablés, en train de jouer à différents jeux et en train de jouer aux cartes. Et puis, bien sûr, les jeux littéraires font partie des amusements. Et l'acrostiche, ce sont des textes qu'on peut lire de plusieurs manières, une manière classique. Et puis, si l'on prend le texte dans un sens autre, on peut prendre la première lettre de chaque phrase et qui crée une autre phrase. Donc, ce sont des jeux littéraires et qui sont des jeux qui sont parfois qu'on a du mal à décoder aujourd'hui, mais qui sont tout à fait dans l'esprit du temps.
Alors, il faut dire aussi un mot, Guerrero, parce qu'on parle beaucoup des hommes là depuis le début de cette émission. Il y a aussi des femmes qui ont joué un rôle majeur dans les salons littéraires de cette époque-là, et donc dans le rayonnement du romantisme. Il y a Madame de Girardin et puis la très très célèbre Madame Récamier.
Tout à fait, bien sûr, ces femmes sont mises à l'honneur. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté propre à l'époque romantique. Déjà au XVIIIe siècle, certaines femmes tenaient salon. Delphine de Girardin, qui est née Delphine Gay, se marie à Émile de Girardin, qui est un grand patron du journal La Presse à l'époque. Le XIXe siècle, il ne faut pas oublier que c'est l'avènement de la presse avec des milliers de titres qui sont diffusés. Delphine de Girardin tient un salon qui est adossé au journal de son mari et qui finalement, Delphine de Girardin va jouer un rôle vraiment très important aussi d'entremetteuse et va permettre à certains auteurs d'être publiés par le journal de son mari. Mais Delphine de Girardin, ce n'est pas seulement une entremetteuse, c'est aussi une femme de lettres. Elle publie, elle écrit des textes. Et alors, Madame Récamier, elle, je dirais qu'on peut la considérer comme un peu l'attachée de presse de Chateaubriand, puisque dans son salon de l'Abbaye aux Bois, elle va vraiment promouvoir la figure de Chateaubriand, qui n'a pas proprement parler besoin d'elle pour être célèbre, il l'est déjà, son génie est déjà reconnu, mais il vient au salon de l'Abbaye aux Bois, chez Madame Récamier, pour lire les Mémoires d'Outre-Tombe, et bien sûr, il dispose d'un auditoire très important, et son succès est déjà là.
Voilà, Madame Récamier, qui a donné son nom donc au fameux meuble, le Récamier, qu'on peut décrire comme une banquette.
Oui, comme une banquette, une liseuse, en quelque sorte, voilà, que l'on voit dans un grand nombre de tableaux de cette époque, notamment de Gérard... tout à fait.
Et c'est chez une autre dame, la comtesse Marie Dagout, que le poète Alfred de Vigny va se faire un peu humilier un jour de salon en 1829. Elle le raconte dans ses souvenirs, publiés sous le pseudonyme de Daniel Stern, et grâce à un casque audio, le visiteur du musée de la vie romantique peut en sourire en visitant votre exposition. On écoute.
Un jour, chez moi, par très amicale exception, car il savait à quoi s'en tenir sur le bel esprit des marquises, Alfred de Vigny consentit à lire un de ses poèmes inédits, La Frégate. Je l'en avais prié vivement, indiscrètement. J'en eus bien de la mortification. La lecture, à laquelle j'avais convié toute la fleur aristocratique, ne fut point du tout goûtée. Un silence consternant accueillit l'œuvre et l'auteur. « Ma frégate a fait naufrage dans votre salon », me dit en se retirant Alfred de Vigny. « Ce monsieur est-il un amateur ?» venait de me demander l'ambassadeur d'Autriche.
Voilà, bref, parfois l'ego des poètes, y compris les plus grands, peut être soumis à rude épreuve. Il avait un petit peu d'humour quand même, visiblement. Alfred de Vigny, salon un petit peu plus conservateur que les autres quand même, hein, dit le commentaire lors de la visite Gaël Rieux. On boit et on fume aussi dans les salons à l'époque ?
Alors, dans certains salons, en tout cas, et notamment le club des Hachichins, que l'on évoque à travers deux portraits assez extraordinaires, le club des Hachichins, c'est une forme de salon littéraire, mais qui est plus un prétexte, finalement, la littérature est plus un prétexte pour consommer du hachiche, comme son nom l'indique. C'est l'époque de découverte et de curiosité aussi vis-à-vis de ces drogues, hein. En Europe, il y a un véritable mouvement d'attrait et d'attraction vis-à-vis de la consommation de ces drogues, et le club des Hachichins se tient à l'hôtel Pimodan, que l'on connaît davantage sous le nom de l'hôtel de Lauzin, et donc qui est très fréquenté par les écrivains, notamment Théophile Gautier, Baudelaire. Baudelaire, il loue une chambre dans cet hôtel et pratique justement ses séances, ces séances qui étaient souvent appelées comme des fantasias de consommation de haschich et qui étaient un prétexte un peu pour trouver de nouvelles sources d'inspiration.
Oui, donc Théophile Gautier et Baudelaire qui sont d'ailleurs côte à côte, hein, dans les portraits, vous les avez exposés côte à côte. C'est assez drôle parce que c'est pas du tout le même genre de personnage.
Exactement. Et d'ailleurs, ces deux tableaux sont représentés complètement différemment. Baudelaire est représenté vraiment comme un héros de la bohème. Il est représenté très jeune. Il a à peine 20 ans quand il est représenté par son ami Émile de Roy. Et il est représenté comme un héros dandy de la bohème avec un fort contraste entre son visage qui a un regard très amusé, très insolent, l'insolence de la jeunesse, et en même temps ses mains qui sont très noueuses, tortueuses, et qui c'est un tableau qui est très fort puisqu'il préfigure finalement le génie en quelque sorte que va devenir Baudelaire, alors que Théophile Gautier qui est représenté de manière beaucoup plus conventionnelle, beaucoup plus sobre, mais Théophile Gautier est une grande figure du romantisme, c'est un mémorialiste, hein. Il va écrire cette fameuse histoire du romantisme publiée de manière posthume et qui propose une synthèse en fait des grands personnages de ce romantisme.
Alors vous avez prononcé un mot important, c'est le mot représentation. C'est vrai que la représentation est vraiment un élément fondamental de l'exposition sur les deux sites. Par exemple, je voudrais qu'on évoque, on parlait de Victor Hugo tout à l'heure, Nadar, qui représente Victor Hugo. Alors c'est assez drôle parce que là on est vraiment dans la caricature assez, assez féroce, parce qu'on a l'image aujourd'hui du Victor Hugo respecté de tous. Pour ce côté un peu patriarche, un peu chef de file du romantisme, Nadar s'en moquait un petit peu. Et il n'était pas tout seul d'ailleurs.
Alors c'est vrai que vous évoquez le Panthéon Nadar, qui voilà. Nadar est davantage connu du public comme photographe, mais avant tout c'est un excellent dessinateur, un excellent lithographe. Alors certes il représente donc dans une marche, dans un cortège un petit peu carnavalesque, une série de 250 écrivains qui sont caricaturés.
C'est considérable, hein, c'est chacun a vraiment son visage représenté les uns comme ça après les autres.
Exactement, avec les légendes sur le côté, donc c'est un peu le qui est qui de l'époque, c'est intéressant. Alors c'est une critique certes féroce, je suis assez d'accord avec vous, et en même temps vous voyez, cette œuvre s'appelle Panthéon Nadar, donc c'est quand même une œuvre qui rend hommage, hein. Et la caricature elle est un peu à double tranchant à cette époque. C'est la caricature, c'est aussi une forme de reconnaissance, une forme de reconnaissance du génie de ces écrivains, et les écrivains vraiment, avant d'être justement portraiturés par le biais de la photographie dans l'atelier de Nadar, ils se pressaient vraiment pour apparaître sur cette lithographie, pour apparaître sur le Panthéon Nadar, puisque qui dit être caricaturé dit être reconnu. Donc c'est une forme de reconnaissance et une forme d'accès aussi à la postérité. Donc la caricature, est, il faut la voir aussi comme un hommage en fait.
Oui, il y a aussi des bustes que l'on retrouve, d'ailleurs des bustes de Jean-Pierre Dantan, hein, que l'on retrouve d'ailleurs dans les, sur les deux sites, hein, aussi bien au Petit Palais qu'au Musée de la Vie Romantique, Christophe Le Ribaud. C'est ce qu'on appelle des portraits charges. Alors décrivez-nous un petit peu l'objet parce que c'est quand même là aussi extrêmement curieux.
Alors ce sont des petites statuettes en plâtre, mais patinées façon terre cuite, qui décharge. Donc par exemple, si on représente Berlioz, on voit surtout une énorme chevelure et puis un petit bonhomme en dessous, et avec un socle qui est orné non pas du nom véritable du personnage caricaturé, mais le nom est en rébus, si bien qu'on a un peu souvent perdu le sujet. Alors sauf étude, maintenant on sait très bien qui était qui, mais c'est ce qui a un peu fait se perdre ces bustes à travers les générations. On n'en a plus tenu tellement compte parce qu'on ne se rendait plus compte que c'était justement le portrait de tel ou tel grand peintre, écrivain ou femme de lettres de l'époque. Mais ils sont vraiment très très drôles. Il faut les voir.
Hein. Il faut les voir. Mais c'est vraiment impressionnant. Il faut vraiment prendre le temps aussi de les admirer et de déchiffrer peut-être aussi un petit peu les rébus justement. Alors il y a donc la caricature en relief, si j'ose dire, et puis il y a la caricature sous forme de dessin. Donc on a évidemment la figure de Daumier. Et là on en arrive à la politique. Bon, il y a la poire évidemment, hein, qui représente Louis-Philippe, qui est la caricature de Louis-Philippe. Mais il y en a aussi plein d'autres parce que c'est vraiment une époque où la caricature se développe considérablement, notamment à travers la presse, justement, Christophe Le Ribaud.
Oui, parce qu'à l'issue de la révolution de 1830, qui avait été en partie déclenchée à cause de la censure, Louis-Philippe est obligé d'ouvrir la liberté de la presse, et il n'a pas de chance, puisqu'en face de lui, il a des caricaturistes incroyables, à commencer par Daumier, mais aussi Granville, Traviès et d'autres, qui s'en donnent à cœur joie. Et puis c'est une nouvelle technique, la lithographie, qui permet de diffuser ces planches, qui d'ailleurs sont exposées dans les vitrines de plusieurs éditeurs, Passage Véro, Doda, et chaque jour, on se presse pour voir les nouveautés qui paraîtront ensuite dans des périodiques qui vont jamais durer très longtemps, parce qu'il y a quand même des procès, etc., contre eux.
Alors, tout ça nous amène donc évidemment à la politique, et Dieu sait s'il y a des soubresauts, hein, dans ces années-là. Il y a les Trois Glorieuses en 1830, et puis la Révolution de 1848. Vous évoquez évidemment ces mouvements-là à travers notamment des tableaux, mais pas seulement. 1848, puisque c'est la date butoir, hein, de cette exposition, Christophe Le Ribaud, c'est une vraie rupture pour Paris?
Effectivement, puisque bon, c'est une révolution violente qui met fin à la monarchie de Louis-Philippe, l'invasion des Tuileries, c'est évidemment tout à fait violent. Louis-Philippe fuit en Grande-Bretagne, mais pour l'histoire parisienne, ça va au-delà, puisque le régime suivant, ce sera l'épisode très éphémère Seconde République, puis finalement l'avènement de Napoléon III, c'est un autre chapitre tout à fait florissant de l'histoire de Paris, mais très différent, puisque là, après des monarchies relativement faibles, on a à nouveau un empereur qui veut imposer sa marque sur la ville, qui donne quartier libre au baron Haussmann pour créer ses grandes avenues, renouveler tout l'habitat parisien. On construit de très grandes gares, on crée toute une série d'expositions universelles qui font venir le monde entier à Paris. Donc une époque absolument grandiose, fascinante aussi, mais très différente de l'époque romantique où finalement c'est la création vient de la ville. C'est des théâtres non subventionnés, alors que le Second Empire voit revenir un art plus officiel.
Merci beaucoup à tous les deux, Gaël Rio, Christophe Le Ribaud, d'être passés nous voir Paris romantique. C'est une exposition à voir jusqu'au 15 septembre au Petit Palais et au Musée de la Vie romantique.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et on reste à Paris, Paris contemporain cette fois, mais dans un lieu historique qui a su se réinventer. Nous sommes dans le quartier de Pigalle et là-bas se trouve un cabaret au nom intrigant, Madame Arthur. Fanny Blechner est allée à la rencontre des créatures qu'il nous propose de rencontrer.
Au-dessus des vieux volcans glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement.
C'est le premier cabaret travesti de Paris. Créé en 1946, il a été repris fin 2015 par l'équipe du Divan du Monde, la salle de spectacle voisine. C'est à ce moment que l'extravagante Patachetouille, interprétée par Julien Fantou, qui vient du milieu de l'opéra, fait son apparition.
Moi, je joue à la poupée avec Patachetouille. C'est une vraie femme à barbe aussi. Oui, c'est quand même une créature chimérique. C'est une vue de l'esprit. Ouais, c'est une folie, c'est une créature chimérique.
Aux côtés de Patachetouille, l'oiseau joli, l'accordéoniste de la troupe.
Je porte des attributs plutôt masculins, je mets en avant des parties de mon corps comme mes épaules et puis ma moustache aussi que en ce moment je mets en bleu. Et mais avant tout, mon personnage est caractérisé par ce que je porte, c'est-à-dire mon accordéon et qui porte aussi les autres finalement.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique.
L'équipe est composée de 15 artistes. Chaque semaine, la programmation change, d'Edith Piaf à Beyoncé, en passant par Barbara ou Philippe Catherine. Chez Madame Arthur, on expérimente tous les répertoires. Une seule condition, chanter en français. À chaque fois sur scène, 3 chanteurs comédiens et un musicien. Cette fois-ci, il y a aussi Odile de Mainville. Arrivée en septembre, elle fait partie des rares femmes du groupe.
Je pense que le genre, en fait, c'est une question qui ne se pose pas du tout chez Madame Arthur. C'est-à-dire que j'espère que le public en plus ne vient pas voir une sexualité sur scène, il vient voir des artistes qui ont un univers à proposer, une poésie à délivrer, un univers à partager. C'est pas du tout une problématique Madame Arthur, et c'est pour ça que c'est tellement jouissif d'ailleurs.
Oui, Patachetouille c'est pareil, le genre elle s'en fout, elle aime le genre à condition qu'il soit mauvais quoi, tu vois, mauvais genre.
Bah, je pense surtout aussi qu'on est là pour les exploser les gens, pour les mélanger, pour les triturer, pour les malaxer. On a quand même un maquillage, des fossiles, on essaie quand même d'aller de temps en temps vers le genre féminin, mais tout en gardant effectivement aussi nos attributs masculins. Enfin, on essaie vraiment de mélanger tout ça pour créer plus un trouble, en fait.
Ce soir, il y a aussi Corinne que l'on vient d'entendre, un personnage fascinant sur scène, aux jambes très fines dans des collants résille, le visage fardé, le maquillage, les déguisements, tout cela participe évidemment grandement à l'univers esthétique de chaque spectacle, qui demande aussi une force de travail particulière.
Il faut se rendre compte qu'on monte un spectacle en une journée. Je pense que c'est quand même assez important de le préciser. C'est-à-dire qu'on répète musicalement environ 3 heures le matin et ensuite on a l'après-midi pour monter un spectacle, trouver une narration et établir des interactions entre les différents personnages, créer des décors, une scénographie en une après-midi. Je crois qu'on peut se féliciter de faire des petits miracles chaque semaine quand même.
Mais sur scène, l'effort disparaît au profit de l'ambiance sur les planches et dans la salle, une douce folie à laquelle se mêlent volontiers les spectateurs, de tous âges et tous milieux, de plus en plus nombreux à fréquenter les lieux.
L'ivresse compte pour beaucoup. Dans un lieu comme celui-ci, la notion de substance, qu'est-ce qu'on vient chercher? En fait, c'est des gens qui dorment pas, c'est des gens avec qui c'est pas une histoire qui va les mener vers le sommeil. Donc on joue avec cette espèce d'énergie comme ça, de trouver le repos et en même temps être en pleine énergie.
Une ivresse d'essence qui emmène souvent à prolonger la soirée sur le dance floor du Divan du Monde.
Reportage de Fanny Blechner et les créatures de Madame Arthur. Vous pouvez donc les voir sur scène du mercredi au samedi au cabaret du même nom dans le 18e arrondissement de la capitale. Dans un instant, l'info. Demain, bande dessinée dans VMDN avec les Sansons et l'amateur de souffrance. C'est paru aux éditions Vent d'Ouest. Il est question de la vie passionnante des bourreaux. Voilà, retour sur l'histoire de France à travers un angle un petit peu particulier, un petit peu fantastique aussi. C'est pas uniquement de l'histoire. Rendez-vous donc demain avec les deux auteurs et vous m'en direz des nouvelles.